Ça m'est arrivé il y a 6 mois, je crois. Donc, j'étais dans le métro, une dame est venue, elle m'a montré du doigt et elle a dit « C'est à cause de vous que ce pays est terrorisé ».
Et d'ailleurs, après le vote sur le Brexit, les musulmans n'ont pas été les seuls à être attaqués. Les Européens aussi. Des Français, des Allemands, d'autres Européens de l'Est.
Il y a, dans ces actes, une composante de violence masculine sur les femmes. Donc, l'homme prend le pouvoir en attaquant la femme, qui est plus faible, que ce soit verbalement, physiquement, que ce soit en tirant sur son voile ou en la poussant.
Ce que les Britanniques appellent les hate crimes, qu'il est tentant de traduire par crimes haineux, ces attaques contre une religion, une communauté ou contre des personnes en raison de leur appartenance ethnique, les hate crimes constituent un phénomène préoccupant, outre-Manche, en augmentation très sensible. Selon le ministère de l'Intérieur britannique, ce type d'actes en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté de près de 30% en 2016-2017 par rapport à la même période des 12 mois précédents. Cela représente plus de 80 000 crimes enregistrés par les forces de l'ordre, dont une grande partie a ciblé ces derniers mois les musulmans ou ceux qui ont été considérés comme musulmans. Les exemples de hate crimes se multiplient, menaces contre des mosquées, contre des femmes voilées ou bien attaques directes, comme celle qui a visé à la fin du mois de septembre un homme sortant d'un centre islamique et atteint d'un coup de couteau. Il s'agissait d'un chirurgien qui s'était porté volontaire pour venir en aide aux victimes de l'attentat islamiste de Manchester. L'actuelle vague de terrorisme est une des explications de ce phénomène, d'autant que le Royaume-Uni n'a pas été épargné ces derniers mois à Manchester, à Westminster ou sur le London Bridge. La campagne nauséabonde et de bannir du Brexit centré sur les migrants est une autre explication, il y en a certainement d'autres. Quoi qu'il en soit, les hate crimes sont une réalité et à Londres, ville dont le maire depuis 2 ans est musulman, a même été inaugurée cette année une semaine de lutte contre ces agressions. Alors, le modèle anglo-saxon présenté comme étant celui du multiculturalisme est-il en train d'évoluer? Si oui, de quelle manière? Agression islamophobe au Royaume-Uni, le multiculturalisme en question, c'est le sujet du magazine de la rédaction aujourd'hui. Et nous allons dans un instant écouter le reportage de Marion Lourd qui est avec nous depuis Londres. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
On salue évidemment également nos invités ce soir. Vincent Latour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en civilisation britannique à Toulouse, Jean Jaurès, et vous nous parlez depuis les studios de France Bleu Toulouse. Bonsoir également à Nada Afiouni.
Bonsoir.
Vous êtes là, merci. Docteur en civilisation britannique et maître de conférence à l'Université du Havre, membre du groupe de recherche Identité et Culture, le GRIC, en duplex depuis France Bleu, Haute-Normandie. Tous ensemble, nous parlerons de ce qu'on appelle le multiculturalisme britannique et de son évolution. Nous brosserons de quelques traits un portrait de la société britannique dans l'optique de mieux comprendre cette vague d'agression contre les musulmans au Royaume-Uni, un phénomène que vous avez suivi de près, Marion, ces derniers mois. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Comment l'endiguer? De quoi est-il le nom? Ce sont les questions auxquelles vous allez nous aider à répondre ce soir, Marion Lourd.
Oui, et pour y répondre, il faut évidemment aller à la rencontre de ces musulmans, mais pas seulement. La police a aussi son mot à dire, et elle confirme d'ailleurs les chiffres. Il ne s'agit pas de victimiser une communauté, mais de constater un phénomène. D'ailleurs, les musulmans sont les plus concernés, mais pas les seuls concernés. Quand on les rencontre, beaucoup évoquent les agressions récentes contre des Européens, Français ou Polonais dans le sillage du vote pour le Brexit ou la campagne du Leave pour quitter le Royaume-Uni. C'est fait beaucoup contre l'immigration et les mélanges en tout genre. Alors pour réaliser ce magazine, j'ai pris du temps, beaucoup de temps pour rencontrer des membres de la communauté musulmane. Communauté, c'est un mot important. Ici au Royaume-Uni, chacun a la sienne et on oublie parfois de se mélanger. Dans les agressions du quotidien et les plus graves comme cet attentat de la sortie de la mosquée de Finsbury Park, un Gallois de 47 ans fonce sur les fidèles qui viennent de finir la prière du soir. Au volant de son van de location, il fait un mort, un homme victime d'un malaise cardiaque qui ne se relèvera plus. C'était le 19 juin dernier, en pleine nuit, et j'y étais.
Agression islamophobe au Royaume-Uni, le multiculturalisme en question, c'est un reportage de Marion Lourd.
The head
Le titre de une, c'est « Un véhicule percute des piétons à Finsbury Park ». Un certain nombre de victimes sont traitées sur place après qu'on a appris qu'un véhicule a provoqué une collision dans le nord de Londres. Mais pourquoi on appelle ça une collision ? Bien sûr, oui, c'est une collision, mais c'était délibéré, une tentative de meurtre sur des innocents. Moi, je m'appelle Adnan Rachid. Je suis étudiant, j'habite à Londres, pas loin d'ici. J'ai entendu parler de cet accident. Et quand j'ai vu que les reportages n'appelaient pas ça une attaque terroriste, ça m'a beaucoup inquiété. C'est pour ça que je suis venu ici, pour voir ce qui s'était vraiment passé. Et j'ai rencontré des gens qui ont vu les blessés et ils m'ont dit que c'était une attaque délibérée à la vie des personnes. Quelqu'un qui a délibérément foncé dans des musulmans qui sortaient de la mosquée. Donc à ce stade, pour moi, c'est une attaque terroriste contre des musulmans. Des musulmans innocents qui n'ont rien à voir avec aucune situation politique ailleurs dans le monde, qui sortaient de la prière, qui ont été attaqués par un fâcheux individu. En juin, quand il y a eu l'attentat de London Bridge, des terroristes sont sortis, ont tué des innocents qui marchaient sur le pont. Dans la minute, on a appelé ça une attaque terroriste. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et on ne comprend pas pourquoi les médias n'appellent pas ça une attaque terroriste. S'ils tuent délibérément des gens, comme ça, ce sont des terroristes.
Mais la question est, est-ce qu'on les appellera des terroristes ? Parce que leur cible était des musulmans. C'est la vraie question ici. La meilleure amie de ma femme s'est fait pousser dans les escaliers et arroser de bière. C'est une musulmane somalienne de Londres. Ça s'est passé après l'attentat de Manchester. Donc il y a eu beaucoup d'attaques.
À 100 mètres away.
À une centaine de mètres d'ici, il y a l'entrée de la mosquée. Les gens sortent par là. Lui, il observait depuis le coin de la rue et je vois bien que cet homme savait qu'à une centaine de mètres, c'était l'entrée de la mosquée. Les fidèles venaient de finir la prière, ils partaient, ils se saluaient, vous voyez. Lui, il savait bien pourquoi il était venu et il l'a fait. Mon ami, il y avait beaucoup de gens au sol. Des gens qui saignaient, qui gémissaient, une douleur terrible. Le contrôle de la camionnette n'a jamais échappé au conducteur. Il savait bien que quelqu'un était tombé sur le trottoir à ce moment-là, avant même qu'il lance sa camionnette et renverse les gens. Aucun mot ne peut décrire ce qu'a fait cet homme. Ça aurait pu être moi. Et à 5 minutes près, c'était moi. C'est terrible. Comme vous voyez, si vous regardez dans cette direction, il y a une camionnette blanche bloquée au milieu de la route. Je crois bien que c'est cette camionnette qui a servi à renverser des innocents. Et l'un de ceux qui l'a renversé est mort. Il a fait un accident cardiaque avant que la camionnette n'arrive, donc il y avait des gens autour de lui pour l'aider. Et cette personne a choisi exactement ce moment pour faire quelque chose d'aussi malfaisant. Il savait très bien ce qu'il faisait, c'était prémédité.
Mais comment la camionnette s'est arrêtée et pourquoi elle s'est arrêtée ?
Comment elle s'est arrêtée ? Mais il ne pouvait pas aller plus loin. Vous comprenez, c'est une grande route fréquentée, donc peut-être quand il a tenté de s'échapper, les gens étaient tellement remontés qu'ils l'ont capturé. Beaucoup de gens disent que c'était un homme caucasien avec une allure d'Européen de l'Est, vous voyez. Il y avait un océan de gens autour de cet homme. Certains voulaient le découper en morceaux, beaucoup d'autres disaient « attendez la police ». Les gens étaient en colère.
L'auteur présumé de l'attentat, un père de famille gallois, sera jugé pour meurtre et tentative de meurtre le 22 janvier prochain. Dans la foulée, on apprend que le nombre d'activistes d'extrême droite signalés au gouvernement britannique a bondi de 30% l'an dernier. 4 mois après les faits, l'une des victimes de l'attaque accepte de me rencontrer.
My name is Yassin Hirsi. I'm a victim of a terrorist.
Je m'appelle Yassine Hirsi, je suis victime d'un terroriste. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été renversé par un van, parce qu'on était à la mosquée, la prière du soir venait de finir. On marchait dans la rue avec tout un groupe, un de nos amis est tombé sur le sol et on l'a soutenu, et ensuite un van a foncé sur nous. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans l'accident et un autre homme conduisait une voiture, il est venu jusqu'à nous, il est descendu de sa voiture. Et il a dit, pourquoi tu fais semblant ? Tu n'as rien. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais enfin, tu fais semblant. Moi, j'avais très mal, une douleur intense. Oui, je suis allé à l'hôpital. Je suis sorti quelques jours après. J'étais blessé aux deux jambes. L'une est cassée, l'autre blessée.
Vous êtes rentré chez vous au bout de combien de temps ?
2 jours plus tard. Je crois que je suis doublement victime. D'abord parce que je suis pris dans une attaque terroriste, et puis en même temps, je subis une agression raciste. Donc c'est très dur. Je crois que ça, c'était le pire, quand quelqu'un qui se met devant moi et me dit « rien n'est arrivé », exactement à l'endroit où je me tenais quand l'attentat s'est produit.
where the incident has been happened.
Vous êtes allé voir la police?
Eh bien, j'avais vraiment très mal cette nuit-là et j'étais épuisé en rentrant chez moi. Donc non, je ne suis pas allé voir la police. Après, j'ai raté beaucoup d'offres d'emploi. Moi, j'avais été ingénieur, j'ai occupé d'autres postes et maintenant, je ne peux plus faire le métier que je faisais avant. Avant, je faisais des métiers physiques, je travaillais aussi avec les écoles. Donc pas moyen que je revienne et que je reprenne mon métier d'avant. Je ne travaille pas en ce moment. Ma blessure est encore récente, ça fait 3 mois. Environ, je ne sens pas vraiment mes jambes et je me remets tout juste. Donc ça va prendre du temps avant que je me sente capable de retourner au boulot.
Depuis combien de temps vous habitez à Londres? Depuis toujours?
J'habite ici depuis 28 ans. Je suis arrivé de Somalie, c'est mon pays, tout comme la Grande-Bretagne.
En 28 ans, est-ce que les choses ont changé?
Avant, on n'avait pas le genre d'attentats terroristes qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant, je crois que le monde change et il faut que nous comprenions chacun la culture de l'autre et ses croyances.
Il y a un lien avec le Brexit ?
Oui, je crois que pendant le vote sur le Brexit, il y a eu plus d'agressions et la communauté s'est demandé « Tiens, on n'avait jamais eu ça avant, pourquoi c'est nouveau ?» Donc je pense que oui, il y a un lien. Je pense aussi qu'il faut s'attaquer aux crimes de haine, il faut arrêter de discriminer les gens selon leur couleur, leur sexe ou leur croyance. Il faut nous accepter les uns les autres et vivre ensemble.
Hello, I'm here to meet Mr. Cosba.
Yeah, Mr. Cosba.
Okay.
Okay. Hello.
Hello, Mr.
Cosba.
Marion
Lou.
Hi.
Hi.
Hi. Mohamed Kosbar, I'm the chairman of Finsbury Park Mosque.
Mohamed Kosbar, secrétaire général de la mosquée de Finsbury Park. Beaucoup de crimes de haine et d'attaques se sont produits ces dernières années. Mais celle de Finsbury Park, c'était une attaque majeure. Comme l'a dit la première ministre Theresa May, c'était une attaque terroriste et nous devons l'appeler attaque terroriste. Et malheureusement, l'un des membres de notre communauté est mort et une douzaine de personnes environ ont été blessées.
Vous avez dit qu'il y avait d'autres crimes de haine. Quel genre de crimes?
Well, a lot of attacks on either individuals, Muslim individuals.
Beaucoup d'attaques sur des individus musulmans, mais aussi sur des institutions comme les mosquées. Chez nous, par exemple, des gens ont planté des têtes de cochon sur les grilles devant la porte, en novembre 2015. D'autres gens ont cassé les fenêtres, etc. Beaucoup de choses de ce genre se produisent, pas seulement dans notre mosquée, mais dans bien d'autres. Malheureusement, le nombre de crimes de haine augmente. On l'a vu après le Brexit et après les attentats terroristes qui se sont produits, pas seulement à Finsbury, mais à Manchester, à London Bridge et à Westminster. Tout ça a fait grimper les crimes de haine. Mais l'islam n'a rien à voir avec ça. Les victimes de ces attentats peuvent très bien être des musulmans. Et peut-être que les gouvernements devraient faire quelque chose pour les deux types d'extrémistes. Je ne parle pas seulement de l'extrême droite, mais de tous les extrémistes.
Vous trouvez que le gouvernement fait quelque chose?
On n'a pas vu grand-chose en tout cas. On espère que ce sera le cas. Quand Theresa May est venue ici, après l'attentat, elle a dit qu'elle essaierait de faire quelque chose pour s'attaquer aux crimes de haine en général. Il devrait y avoir une législation pour protéger les communautés, pas que les musulmans, toutes les communautés. Et d'ailleurs, après le vote sur le Brexit, les musulmans n'ont pas été les seuls à être attaqués. Les Européens aussi, des Français, des Allemands, d'autres Européens de l'Est. C'était un problème pour tout le monde. Vous savez, dans la loi, il y a des protections pour certaines communautés. Les juifs et les sikhs sont protégés, ce qui est très positif. Mais il faut faire la même chose pour les autres. On sait que ça prendra du temps. Il y a des signes positifs, comme l'engagement auprès de notre mosquée, par exemple. Avant, on n'a jamais eu de visite du gouvernement. Là, plusieurs ministres sont venus ici, la première ministre aussi. J'ai été invité à l'Aïd au 10 Downing Street. Donc c'est bon signe, mais il nous faut plus.
Alors vous dites que Theresa May donne des signes positifs, mais après l'attentat de London Bridge, elle a dit trop c'est trop et elle semblait critiquer le multiculturalisme.
To criticize the model of the multiculturalism, did you understand that?
There is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country.
Il y a, pour être franche, beaucoup trop de tolérance dans notre pays à l'égard de l'extrémisme, donc il faut qu'on devienne meilleur pour l'identifier et s'en débarrasser dans le secteur public et dans l'ensemble de la société. Cela va exiger des conversations difficiles et souvent embarrassantes, mais tout notre pays doit s'unir pour mettre fin à cet extrémisme et nous devons mener notre vie non pas au sein d'une série de communautés séparées, mais comme un royaume réellement uni. Il est temps de dire « trop, c'est trop ».
It is time to say enough is enough.
Je suis d'accord avec elle. Trop, c'est trop. Mais pour ce qui est des crimes de haine, du terrorisme, de l'intolérance, pour l'injustice.
Mais moi, je l'entends critiquer le multiculturalisme, pas vous?
Did you hear that too?
I didn't hear that, but
je n'entends pas ça. Mais notre société est multiculturelle, particulièrement à Londres. On aime Londres parce qu'on est multiculturel. Des communautés différentes, des ethnies différentes, des croyances différentes. On vit tous ensemble ici. Et ça marche, vous voyez bien. Ici, à Islington, par exemple, si cette horrible attaque terroriste a eu une conséquence positive, c'est de nous rapprocher en tant que communauté, nous rendre plus forts, plus unis. C'est un exemple de comment nous vivons tous ensemble.
Donc il y a quelque chose d'autre qui pousse des gens à commettre des crimes de haine.
People commit hate crimes against.
L'éducation, c'est important. Et puis, il y a une responsabilité pour nous, les musulmans. Nous devons faire plus. Nous rapprocher de nos communautés, de nos voisins, ouvrir des centres comme notre mosquée pour que les gens puissent venir voir ce que nous faisons et avoir cette conversation. Malheureusement, on ne fait pas assez dans ce sens en tant que communauté. Mais maintenant, alhamdoulilah, beaucoup de mosquées et de centres communautaires s'ouvrent. L'an dernier, pour la journée Visite ma mosquée, 150 mosquées ont ouvert leurs portes le même jour. Et on en attend 250 en février prochain.
Après l'attentat de London Bridge, j'ai vu des gens parler dans la rue. Il y avait un garçon musulman venu pour dire que cet attentat n'était pas en son nom et un homme qui avait l'air en colère et qui lui disait que les musulmans ne faisaient pas leur travail, qu'ils devraient combattre les mosquées extrémistes, mais qu'ils ne le faisaient pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus en tant que communauté, à part condamner et s'assurer que nos mosquées n'ont aucune place pour ce genre de personnes. Récemment, il y a eu un reportage de la BBC qui montrait que les gens qui viennent prier à la mosquée se sentent plus britanniques que les autres. Nous combattons l'extrémisme. C'est le cas de la majorité des mosquées. Il n'y a qu'une ou deux exceptions. Le gouvernement les connaît.
Mais il y a quelques années, Finsbury Park aussi est extrémiste.
On a eu des histoires il y a une douzaine d'années. Depuis 2005, les choses ont changé. Et maintenant, vous voyez, la mosquée est ouverte à tous. C'est un exemple à suivre pour d'autres mosquées. On a une très bonne relation avec le conseil de quartier, la police, nos députés locaux, les dirigeants religieux, les autres communautés, tout le monde. Alhamdoulilah, on a une bonne relation avec tout le monde.
Mohamed Kosbar me convie à une réunion quelques jours plus tard pour combattre les crimes de haine envers les femmes musulmanes. Beaucoup d'invités, dont Jeremy Corbyn, le leader travailliste et député de cette circonscription.
Il faut qu'on commence, donc si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Bienvenue à tout le monde aujourd'hui, nous sommes ici avec nos invités, à qui je dis bienvenue aussi. Merci Jérémy, merci Richard, le conseil de quartier, la police et tous ceux qui nous aident à résoudre ce problème. Bon, on espère pouvoir tous vous entendre, mais d'abord je voudrais que Jérémy dise quelques mots d'ouverture. Bienvenue Jérémy.
Merci Mohamed, et merci à tous d'être venus. Une attaque contre qui que ce soit, c'est une attaque contre nous tous. Si les lois doivent être renforcées, faisons-le. S'il faut une réponse policière plus forte, renforçons-la. Si la police a besoin de plus de ressources pour combattre les crimes de haine, donnons-lui. Ce qui est important, c'est que tout le monde ici puisse parler de son expérience personnelle.
speak about what's happened to you.
Je m'appelle Zain Namir, je suis étudiante et je fais de la psychologie du management. Ça m'est arrivé il y a 6 mois, je crois. Donc, j'étais dans le métro, une dame est venue, elle m'a montré du doigt et elle a dit « C'est à cause de vous que ce pays est terrorisé ». Et elle est tout de suite descendue du train, elle a fait ça quand les portes étaient ouvertes et ensuite, elle s'est enfuie. Donc, je n'ai rien pu dire, j'étais juste choquée. Je ne savais pas quoi faire, elle m'a montré du doigt directement, j'étais terrifiée. Cette dame était très agressive. Elle tremblait parce que je pense qu'elle avait peur. Je ne crois pas qu'elle avait conscience de ce qu'elle faisait, mais elle était très en colère. Elle criait et tout le monde dans le métro a entendu. Et ça aussi, ça a été un choc pour moi. Personne ne s'est interposé. Elle est descendue du train, mon voisin m'a demandé si j'allais bien, mais à part ça, personne n'a fait quoi que ce soit. À ce moment-là, j'étais en route vers l'université, mais en fait, je n'y suis pas allée. Je suis rentrée directement à la maison. J'étais vraiment bouleversée. J'en ai parlé à mon père, et il était fâché. Il m'a dit « Il faut en parler ». Je ne me préparais pas à faire ça. Je ne connaissais rien aux procédures policières. Après, j'étais bouleversée, effrayée. Je ne voulais plus prendre le métro. J'ai même dû me forcer à retourner à l'université parce que j'avais peur que quelqu'un me saute dessus. Je me suis restreinte sur plein de choses. Et ça m'a pris du temps pour emprunter à nouveau le métro, le cœur léger. Même maintenant, je fais plus attention, vous savez. Je regarde autour. Je m'assure d'être à une place où il y a des gens comme moi. Je sais que ça semble terrible, mais des gens qui, selon moi, me ressemblent et qui, du coup, ne vont pas se lever et se mettre à me crier dessus. Donc, je crois que ça m'a vraiment changé.
Vous êtes née à Londres ?
Oui, je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est ma maison.
Et vous trouvez que les choses ont changé ces dernières années ?
Sans aucun doute, depuis que les médias parlent plus du terrorisme, c'est vraiment devenu un sujet. J'ai commencé à porter le foulard il y a 1 an. Au début, ça ne posait de problème à personne. Mais depuis peu, avec tout ce qu'il y a dans les médias, beaucoup de gens posent des questions. Ils viennent me voir. On dirait vraiment que les choses empirent. Le Brexit a vraiment renforcé ce mouvement. Je crois que c'était déjà là au départ. Là, les crimes de haine se produisent plus souvent, mais c'était déjà là. Donc, il pourrait y avoir un lien, mais la tendance était déjà là au départ.
J'étais là au moment de l'attentat de London Bridge. Après ça, Theresa May a eu l'air de questionner le multiculturalisme. C'est un problème pour vous ? Vous trouvez que les communautés se mélangent suffisamment ?
Oui, ça pose problème. Je travaillais à temps partiel près de London Bridge quand l'attentat a eu lieu. J'étais terrifiée et je suis musulmane. J'avais aussi peur que les autres. Et j'ai l'impression que les gens de mon entourage ou les gens qui connaissent des musulmans, ils savent que ça n'a rien à voir avec ma religion. Une fois que vous connaissez quelqu'un qui est musulman ou qui est d'une autre origine, vous savez qu'il ne ferait pas ce genre de choses. Donc je pense que faire partie d'une communauté multiculturelle, diverse, c'est vraiment important. Et c'est ça qui va permettre de dépasser c'est les limites et les idées reçues qu'ont les gens.
Parce que parfois, j'ai l'impression que les communautés vivent les unes à côté des autres, mais qu'elles ne se parlent pas.
C'est vrai, si vous allez dans une partie de Londres, il y a un certain type de personnes ici, un autre type de gens là-bas, et ce n'est pas génial, mais je ne sais pas. Les gens se sentent plus en sécurité quand ils sont avec des personnes qu'ils connaissent. Et ça, je pense que c'est un problème. Il faut vraiment qu'on sorte de notre coquille.
Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour empêcher ces agressions ?
Je crois qu'il faut qu'on soit mieux informés sur le dépôt de plainte, qu'on sache qu'il faut le faire, que les gens ont besoin de le faire. Moi, je suis passée par l'association Telmam, dont mon père m'avait parlé. Je leur ai rapporté les faits, ils ont été super. Ils m'ont beaucoup appelé, ils m'ont demandé comment je me sentais, qui était cette personne, ce genre de détails, ce qu'elle portait, à quoi elle ressemblait, ce qu'elle a dit exactement. Ensuite, ils ont fait suivre à la police. Sauf que quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la police me disant qu'il n'y avait pas de vidéosurveillance sur cette ligne de métro, ce qui m'a choquée, parce que c'est l'une des plus longues de Londres. Ça m'a fait me sentir en danger. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut insister auprès de la police, signaler les problèmes et ensuite suivre l'affaire. Et il faut être courageux, car les gens ne sont pas courageux. Ils ne veulent pas donner tous les détails. Je sais que ça fait beaucoup, ce sont des infos personnelles. Mais pour que les choses avancent, il faut vraiment donner toutes ces informations.
Donc je me trouve à Westminster, dans le centre de Londres, devant un bâtiment en briques rouges qui abrite l'un des bureaux de Telmama, une association qui recense et qui aide les victimes de crimes racistes et anti-musulmans. Telmama, si on traduit littéralement, ça veut dire « dit à maman ».
Thanks, Dylan. How are you? Not bad, sir.
Imen Atta, je suis directrice de Tel Mama.
Alors, si une femme est victime d'un crime haineux, comment ça marche ?
À Tel Mama, on essaie de faciliter tous les moyens de communication pour celles qui veulent nous contacter, que ce soit nous appeler par notre ligne téléphonique gratuite, nous envoyer des SMS gratuits, des WhatsApp, nous envoyer un formulaire en ligne ou nous adresser des messages par Twitter ou Facebook. Donc, dès qu'un cas se présente, on contacte la victime pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Ensuite, on examine ce qui s'est passé. On essaie de rassembler des preuves. On essaie aussi de leur proposer le soutien dont elles ont besoin et de les accompagner pour obtenir réparation de ce crime de haine qu'elles ont subi. Parfois, ça peut prendre vraiment une journée. Parfois, si ça inclut le système judiciaire, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, voire plus, car la police rentre aussi dans le processus. On doit aller au tribunal et ça prend du temps.
Combien d'hommes contactent en une journée ou en une semaine ?
Oula, aujourd'hui, on a jusqu'à 60 cas par semaine, alors qu'à un moment, on oscillait entre 25 et 35. Le rythme hebdomadaire a augmenté suivant les attaques terroristes et maintenant, on en est donc à 60.
C'est le même genre d'agression aujourd'hui qu'en 2012 ?
Pas du tout. Entre 2012 et aujourd'hui, les choses ont changé. On a parlé du nombre de crimes de haine, mais le type d'acte aussi. Parce que quand on a commencé, on recevait surtout des plaintes concernant Internet. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus de 72% des affaires se passent dans la rue et elles changent. À un moment, le plus fréquent, c'était les attaques verbales. Aujourd'hui, il y a plus d'agressions physiques. N'oublions quand même pas que les premières victimes de la haine anti-musulman et de l'islamophobie, ce sont les femmes. Pour deux raisons. Les femmes musulmanes sont faciles à identifier. Qu'elles portent une écharpe, un hijab, un niqab, c'est-à-dire un voile sur le visage. Mais autre raison aussi, il y a dans ces actes une composante de violence masculine sur les femmes. Donc, l'homme prend le pouvoir en attaquant la femme qui est plus faible, que ce soit verbalement, physiquement, que ce soit en tirant sur son voile ou en la poussant.
Où est-ce que ça se passe le plus souvent ? Est-ce que c'est dans les grandes villes, comme Londres, ou à la campagne ?
Ça arrive partout au Royaume-Uni, mais il y a des points chauds. Ça se passe généralement quand vous allez travailler le matin. Tout le monde est pressé, vous avez peut-être poussé quelqu'un sans le vouloir. Une parole entraîne l'autre et ça se termine en réflexion raciste et en commentaires discriminatoires. Ça peut aussi se passer dans les centres commerciaux ou les parkings. Ce sont les principaux endroits qu'on a repérés.
C'est facile de travailler avec la police et les hommes politiques. Est-ce qu'ils vous écoutent ?
Si on compare entre 2012 et aujourd'hui, il y a un gros progrès sur la prise en compte des crimes de haine d'un point de vue de respect de la loi. Et ça a été rendu possible par notre travail avec les forces de police. Nous nous sommes aussi assurés qu'elles recevaient une formation autour de ces agressions. C'est quelque chose que Tel Mama propose. On leur apprend à repérer à quoi ressemblent ces crimes de haine.
Et ils comprennent ?
Je pense qu'ils ont une idée générale, mais honnêtement, la plupart des nouveaux venus dans la police savent ce qu'est un crime de haine, mais ils ne connaissent pas l'islam, son langage religieux, la culture qui va avec, ni même les différents courants au sein de cette religion. Si on peut améliorer ça, en tant qu'association, on le fera. Par rapport à la police, nous sommes aussi une sorte de conseiller, donc on essaie de faire partager notre savoir et notre expérience pour leur permettre de faire leur devoir correctement. Sur le plan de la politique et du gouvernement, l'islamophobie fait partie du plan d'action du gouvernement sur les crimes de haine, mais il faut remonter au Brexit et à juin 2016 parce que certaines campagnes étaient par nature anti-migrants et anti-réfugiés. C'est quelque chose qui a encouragé des gens qui se contentaient de penser dans leur tête qu'ils n'aimaient pas les gens différents à exprimer à haute voix ces pensées et à leur donner une réalité. Nous, on essaye de conseiller les responsables politiques, surtout après des attaques terroristes. On essaye de leur recommander un certain langage. Parce qu'à ces moments-là, les gens ont besoin d'entendre un message d'unité, un message d'égalité et un message qui dit qu'ils travaillent pour le bien de tout le monde.
Fiaz Mughal, directeur de Face Matters et fondateur de Tel Mama.
Quels sont les chiffres aujourd'hui ? Comment vous mesurez la haine anti-musulman ?
La réalité, c'est que les chiffres d'agression anti-musulmane augmentent d'année en année. 2016 était notre pire année depuis qu'on a commencé à compter. En 2016, il y a eu plus de 1500 affaires, Alors, malheureusement, d'une certaine façon, c'est compréhensible parce que 2016 a connu d'importantes attaques terroristes. Et ces attaques provoquent des pics d'agression pour un temps limité, mais ils sont en tout état de cause mesurables et faciles à prouver. Les chiffres de 2017 ne sont pas encore publiés, mais on pourrait arriver à 1700 ou 1800 affaires dans tout le pays. Bon, ça peut être parce que les gens commencent à nous connaître, mais dans les faits, ça augmente réellement. Et 3 personnes ont été tuées en 4 ans à cause de la haine des musulmans. Malheureusement, il y a aussi au sein de la communauté des gens qui vont inventer des histoires, des gens qui vont commencer à dire « Oh, mon amie a été poussée sous un train parce qu'elle portait le hijab ». Ils mettent ça sur les réseaux sociaux et c'est parti. Ça fait beaucoup de mal aux relations entre communautés. La police perd son temps, donc pour trier ces affaires, on a 3 personnes au sein de l'organisation qui doivent rechercher des preuves.
Vous dites que 3 personnes vérifient les accusations. Combien y a-t-il de gens à Tel Mama?
17. On fait aussi de la prévention pour expliquer aux hommes et femmes ce qu'ils peuvent faire s'ils rencontrent ce genre de problème. On va aussi dans les mosquées pour dire aux gens « Soyez au courant de qui rentre et sort de votre mosquée, tout comme les juifs savent qui fréquente leur synagogue. » Prenons exemple sur nos frères et sœurs juifs. Il suffit de demander aux gens comment ils vont, de faire un peu de conversation, c'est pour votre propre sécurité. Autre chose, si on constate des agressions homophobes au sein de la communauté musulmane, si on voit de l'antisémitisme, on le rend public. Et peut-être que ça ne nous crée pas que des amis chez certains musulmans, mais le fait est que la haine n'est pas acceptable, quelle que soit la cible.
Les victimes doivent payer pour être aidées ?
Non, le service est complètement gratuit. On ne demande rien à la victime ni à personne. Notre argent vient de fonds de placement britanniques. On insiste bien sur le fait qu'on ne prend pas un penny venu du Moyen-Orient, pas un penny de gouvernements étrangers. Tout l'argent levé vient du Royaume-Uni. Et si quelqu'un veut donner, on fait une enquête sur lui.
Est-ce que vous liez ces agressions et le Brexit ?
Oui, le lien qu'on a identifié avec le vote Brexit, c'est le pic de crimes de haine qui s'est produit parmi plusieurs communautés. Clairement, les musulmans ont pris leur part de ce pic d'agression. Mais nous avons vu, j'ai vu, une augmentation des agressions contre la communauté polonaise, contre des membres de l'Union européenne. Donc le Brexit a eu cet impact. Quiconque était perçu comme différent était considéré par ses agresseurs comme une cible volontaire. On l'avait vu venir avec la façon dont les plateformes Internet n'ont rien fait pour freiner la haine. Ça a encouragé l'intolérance et ça créait un environnement dans lequel les gens pouvaient effectivement dire que les mots haineux, ce n'est pas grave parce que d'autres gens les prononçaient. C'est clair, c'est comme ça, malheureusement.
Vous travaillez avec des politiques ?
Oui, nous travaillons avec des hommes politiques de tous bords. Pour dire la vérité, le gouvernement nous écoute beaucoup. Ce qui est troublant, c'est que la haine et l'intolérance semblent augmenter. Et l'autre élément troublant, c'est qu'il y a une frange de la communauté musulmane, une petite frange, mais une frange qui pense que le monde est contre elle. Et le monde n'est pas contre elle.
Il y a un lien avec le multiculturalisme. Ici, on a l'impression que les gens vivent parfois les uns à côté des autres sans se parler.
Il y a des endroits dans le nord de l'Angleterre et dans les Midlands où les communautés vivent l'une à côté de l'autre. Elles se parlent quand elles ont besoin d'acheter des choses, mais au-delà n'ont pas d'amitié à long terme. Est-ce que c'est un problème ? Ce n'est qu'un petit bout du problème. Le gros morceau, c'est l'islamisme radical et le terrorisme.
Retour à notre réunion à la mosquée de Finsbury Park pour un mot de conclusion avec la police.
Bonsoir, je suis Dan Byron, sergent détective au commissariat d'Holborne et je travaille en ce moment à l'unité de sûreté des communautés. Cette unité s'occupe en priorité de la violence domestique, mais nous gérons aussi les crimes de haine. Chaque quartier de Londres a son unité de sûreté des communautés, donc si vous êtes victime d'un crime, il faut en référer à votre unité locale qui vous donnera un SPOC, un point spécifique de contact au sein de cette unité, et votre officier local de sûreté des communautés sera en charge de ce crime.
Combien de personnes travaillent dans cette unité ?
Oh, il y en a beaucoup. C'est une des unités les mieux dotées en personnel au sein de la police. Les crimes de haine sont un sujet grave qu'on prend très très au sérieux. Donc dans mon unité, il y a sans doute 30 personnes dans mon équipe en tout. Et il y a 4 équipes. Ça fait une centaine de personnes qui se consacrent à combattre ce genre de crime. Donc, vous voyez, on le prend très au sérieux et on en est fiers de ce qu'on fait, parce qu'on le fait bien. Les rapports qu'on récupère, on les suit, on les prend au sérieux et on obtient des résultats. Je ne sais pas depuis combien de temps cette unité existe. Malheureusement, je crains que les crimes de haine n'aient toujours été là. C'est la réponse de la police qui s'est améliorée drastiquement ces dernières années. Les communautés se confient plus facilement à nous. Elles permettent à la police de faire son travail et de répliquer à cette violence.
Il y a une façon particulière de répliquer face à ces crimes ?
Oui, tous les crimes sont pris au sérieux. Si vous rapportez des faits à la police, elle va enquêter. Vous avez peut-être entendu des inquiétudes, des gens qui craignent qu'une fois les faits rapportés, l'enquête ne soit pas approfondie. Eh bien, je peux vous assurer que c'est une erreur. Tous les rapports sont examinés et remis à l'officier enquêteur. En général, c'est un détective qui prend en compte les souhaits de la victime. Sur ces affaires, on essaye de faire ce qui est le mieux pour la victime. On essaye toujours de restaurer la justice et de faire ce que souhaite la victime, que ce soit une résolution, ce qui peut impliquer d'asseoir ensemble victimes et suspects, et d'arriver à une sorte d'accord en éduquant leur agresseur, ou alors ça peut impliquer une amende, un service d'intérêt public, ou bien les emmener au tribunal, les poursuivre et les envoyer en prison. En fait, ça dépend de la gravité des faits et vraiment de ce que souhaite la victime.
Est-ce que vous diriez que ces crimes ne sont pas assez signalés ?
Pour ce que j'en ai entendu ici, oui. Je ne sais pas si les dames ici à qui nous avons parlé ont suffisamment confiance ou connaissent suffisamment le système pour aller voir la police et rapporter les faits. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour récolter leurs idées, pour comprendre comment on peut les approcher et travailler avec elles pour que ces faits soient rapportés.
Que pouvez-vous faire quand les gens ne parlent pas la langue ?
Facile, on a une ligne de la langue qui nous donne des interprètes dans la minute pour prendre des signalements au téléphone. On a un traducteur sur écran vidéo qui peut aider à rapporter des crimes. On peut même publier des dépliants dans différentes langues pour que les gens puissent avoir un mode d'emploi dans leur langue maternelle. Et ça les aidera peut-être à signaler des crimes. Donc oui, on peut prendre des signalements dans toutes les langues.
Certains ici disent que la police n'a pas un recrutement assez diversifié, ce qui découragerait les gens de porter plainte.
That's why maybe some people don't report the crimes. Do you agree with that?
Pour être honnête, je ne sais pas. Dans mon équipe, dans mon commissariat, je travaille dans un environnement assez diversifié. Alors est-ce que c'est représentatif de toute l'unité ? Vraiment, je ne sais pas. Mais j'aime penser que notre police est diversifiée. Si les gens disent qu'il faut améliorer ça, alors il faut peut-être se pencher dessus.
20 000 postes de policiers ont été supprimés. Est-ce que ça affecte votre activité ?
Je crois que ce chiffre est national, donc on ne parle pas que de Londres, on parle de toute la police britannique. Je ne sais pas si ce sont ces moindres ressources ou s'il y a plus de crimes signalés, mais nous sommes très occupés. Et je ne sais pas si c'est un mélange des deux ou alors l'influence de l'un ou de l'autre. Malheureusement, les crimes de haine sont un secteur très très prenant et il y a toujours beaucoup de travail à faire.
Vous avez un conseil pour les victimes ?
Ayez suffisamment confiance pour faire le signalement. Les policiers sont des humains, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes un service public. S'il vous plaît, venez porter plainte et nous ferons de notre mieux pour vous soutenir et le résoudre au maximum de nos capacités.
Agressions islamophobes au Royaume-Uni, le multiculturalisme en question. Un reportage de Marion Lourd réalisé par Yacine Bouzard. Il sera évidemment à retrouver sur internet avec l'intégralité de cette émission sur franceculture.fr. Alors, pour expliquer cette recrudescence constatée de hate crimes avec nos invités, on va faire le portrait de cette société britannique et de ce qu'on appelle le multiculturalisme au Royaume-Uni. On peut d'autant mieux en parler que des statistiques existe. Peut-être débutons avec Nada Fiouni, maître de conférence au Havre en civilisation britannique. Peut-être pour commencer, d'où viennent les communautés qui composent la société britannique et dont on a tendance à dire qu'à certains endroits au moins, elles vivent les unes à côté des autres. Quel est votre regard historique sur cette question-là ?
Oui, alors ces communautés dites ethniques qui vivent en Grande-Bretagne sont majoritairement issues du passé colonial britannique. Ce sont des citoyens du Commonwealth qui avaient, en 1949, selon la loi qui leur avait octroyé la citoyenneté, avaient le droit de venir s'installer et de vivre, de voter et d'être élus en Grande-Bretagne Et depuis, avec l'immigration des années 60 et 70, cette population-là est installée en Grande-Bretagne. Ce sont essentiellement des Pakistanais, des Indiens, des gens du Bangladesh, des gens des Caraïbes. Il y a aussi une petite communauté chinoise, cette fois qui n'appartient pas donc au passé colonial britannique. Il y a aussi une communauté arabe. Et on est capable en Grande-Bretagne de chiffrer le nombre de ces communautés, parce qu'à partir de 1991, le gouvernement a décidé de mettre en place des statistiques dites ethniques qui recensent en fait la population. Et à partir de 2001, ce recensement s'étend à tous les organismes publics. Donc on peut avoir, c'est le paradis des statistiques en Grande-Bretagne.
On peut en parler d'autant plus facilement. Nada Fiouni, vous nous dites que dans les années 40, cette loi dont vous avez parlé, là, a évoqué l'existence, on voit qu'il y a une vision très progressiste des questions liées à l'intégration assez tôt au Royaume-Uni.
En fait, c'était une vision libérale. Effectivement, cette loi de la nationalité de 1949 qui octroyait le droit d'installation et de vote qui donnait la citoyenneté aux ressortissants du Commonwealth était l'une des plus libérales, je dirais, en Europe. Et progressivement, en fait, ces populations-là, la Grande-Bretagne était encore dans une illusion de grandeur. Vous voyez, je dirais que le mythe encore de la grandeur de la Grande-Bretagne était présent et elle se sentait capable d'accueillir toutes ces populations. Malheureusement, les années 50, les années 60 vont très vite réveiller, je dirais, la Grande-Bretagne et vont révéler une réalité beaucoup plus dure avec les discriminations. Et c'est ainsi que la Grande-Bretagne va mettre en place très vite, à partir des années fin des années 60, début des années 70, un arsenal législatif très fort de lutte contre les discriminations. Et pour ce faire, pour rendre cet arsenal efficace, il fallait se munir d'outils statistiques. Et donc c'est un peu ça l'histoire de ces statistiques ethniques, de ces recensements, de l'introduction en 2001 d'une question religieuse dans le recensement, et qui, à mon avis, va aboutir au recensement des crimes, des hate crimes, duquel le reportage parlait. Ouais. Et à ce propos, si je peux juste me permettre, c'est très difficile pour moi d'utiliser le mot crime.
La traduction, crime de haine. Française, oui, qui colle
oui,
pas.
Oui, justement,
vraiment...
ça colle vraiment pas du tout à la réalité de ce que c'est, parce qu'on n'est pas en train de parler de crime. Ça couvre une large palette d'effractions qui peuvent aller de l'agression verbale. De l'atteinte à la dignité jusqu'à la violence.
Hein. Ouais, on l'a entendu dans le reportage de
Marion. Je ne sais pas qu'avec Vincent, qu'est-ce qu'on utiliserait comme traduction, mais c'est vrai que la traduction crime de haine est vraiment misleading. Elle n'explique pas vraiment la situation.
Alors on va poser la question à Vincent Lintour, Marion Lourd d'abord.
Oui, c'est vrai que c'est un vrai problème qui s'est présenté à moi pendant le reportage d'arriver à traduire le mot hate crimes parce que il n'y a pas vraiment de traduction exacte en français. Je me posais quand même une question sur la répartition géographique des communautés musulmanes au Royaume-Uni. Il y a des endroits où il y en a énormément et d'autres où, à contrario, il n'y en a pas du tout. Il y a des villes qui ont même des quartiers musulmans, en fait, comme par exemple Birmingham.
45% des minorités ethniques habitent à Londres. Donc déjà, ça vous donne une idée de la répartition. Et puis après, une autre partie, où il y a d'autres répartitions dans le nord et dans le nord-est. Mmh. Mais c'est vrai que Londres elle-même est une grande concentration de minorités ethniques.
Marion Lourd à Londres, Nada Fiouni à Rouen, dans les locaux de France Bleu Haute-Normandie. Et puis on est également à Toulouse ce soir, on est un peu partout avec Vincent Lintour. Vous êtes docteur, vous êtes professeur des universités en civilisation britannique. Aujourd'hui, le modèle britannique, c'est quoi? Quand on parle de communauté, on l'a entendu, on parle pas uniquement de communautés musulmanes. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, Vincent Lintour? D'autoségrégation à des moments.
Alors l'autoségrégation, c'est une chose. C'est une expression qui avait été utilisée dans le rapport, un rapport en 2001 pour une situation bien particulière à Bradford. Alors le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, je ne sais pas très bien. À la britannique, c'est un modèle qui, mais Nada a tout dit. C'est un modèle qui s'appuie, je dirais, sur donc depuis les années 60, sur des politiques restrictives à l'égard de l'immigration coloniale. Ça, c'est un premier point. Des politiques donc très volontaristes en matière de lutte contre les discriminations et qui ne se sont pas démentis, mais on est parti d'une approche qui était très, particulariste, se fondant sur vraiment les origines des gens. Cette approche n'a pas été remise en question fondamentalement, mais en 2010, on a adopté l'Equality Act qui a un petit peu, rebattu les cartes et qui, par le biais duquel le Royaume-Uni s'est doté vraiment d'un arsenal assez impressionnant de lutte contre tout type de discrimination. Je crois qu'il y a 9 types de discrimination qui existe sous l'Equality Act. Et cet Equality Act, en fait, a annulé, c'est-à-dire que la législation dite sur les relations raciales qui avait été mise en place dans les années 60 et 70, maintenant fait partie de cet Equality Act qui s'occupe également de discrimination se fondant sur l'orientation sexuelle, le genre, la maternité, etc., le handicap, bien sûr. Et le troisième point, je dirais, c'est donc une certaine tolérance envers l'expression des différences culturelles dans l'aide dans l'espace public. Voilà, je pense que ce sont les trois éléments qui définiraient le multiculturalisme britannique, qui, contrairement à ce que avait laissé entendre David Cameron en 2011, n'est pas forcément un multiculturalisme d'État, dans le sens où le multiculturalisme n'a pas été une politique d'État au même titre que cela a été au Canada, par exemple, ou en Suède, ou dans d'autres pays. Mais c'est un multiculturalisme qui a été mis en place au départ au niveau local, au niveau du gouvernement local. Et avant de s'étendre, effectivement, Nada l'a dit, par le biais des statistiques ethniques, au niveau national. Et c'est à signaler sous des gouvernements conservateurs qui fondamentalement étaient très hostiles pourtant au multiculturalisme.
Ouais, on va reparler de politique dans un instant. Est-ce que le modèle britannique que vous venez de décrire, Vincent Latour, est fondamentalement différent du modèle français? Parce que dans le discours, on a l'impression qu'il l'est. Est-ce que sur le terrain et dans les faits, il n'y a pas des points de rapprochement?
Alors, déjà, parler de modèle, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'on parle de choses figées. Je pense que le terme de modèle a une certaine pertinence parce qu'effectivement, il y a des caractéristiques que j'ai décrites tout à l'heure et Nada l'a dit, qui sont liées également au passé colonial des deux pays. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue rhétorique, du point de vue discursif, effectivement, il y a des différences très marquées. À vrai dire, depuis 2001, le modèle britannique, c'est pour tenter qu'on puisse parler de modèle britannique, est allé vers davantage d'intégration et à ce titre-là a été un modèle moins stable que le modèle français qui traditionnellement mettait déjà l'accent sur l'intégration voire sur l'assimilation. Dans les faits maintenant, force est de constater que les deux pays sont confrontés tout de même à des situations assez analogues en termes de marginalisation de certaines communautés. Il y a bien sûr des succès très très notables au Royaume-Uni, en France aussi. Vous avez mentionné l'élection de Sadiq Khan quand même en 2016, l'année du Brexit.
Maire de Londres.
Ce n'est quand même pas rien.
Londres a voté contre le Brexit. Il faut le rappeler.
Comment?
Quand même. Londres a voté contre le Brexit. Donc
oui,
il y a quand
sûr,
même peut-être
sûr.
Un lien justement.
Oui, bien sûr, on peut pas parler la même chose. C'est comme à Paris, je veux dire, à Paris, le vote Front National à Paris jusqu'à très récemment était quand même très marginal. Donc, ce sont des capitales internationales très ouvertes au cosmopolitisme, très ouvertes sur le monde extérieur et qui sont beaucoup plus diverses que d'autres parties du Royaume-Uni qui ont voté pour le Brexit justement.
Vincent Latour, comment sont perçus, Nada Fiouni, on va vous retrouver dans un instant, comment sont perçues les communautés musulmanes au Royaume-Uni? Jusqu'à ces dernières années, elles n'avaient pas franchement l'habitude d'être prises pour cible, d'être stigmatisées.
Alors, vous faites bien d'utiliser le pluriel, les communautés musulmanes, parce que effectivement, elles sont très diverses. On parle de, un des interlocuteurs, je crois que c'était le directeur de la mosquée de Finsbury, se plaignait que les musulmans ne soient pas comptabilisés, ne soient pas reconnus à la fois comme une communauté ethnique, comme un groupe ethnique, un groupe religieux. Il faisait référence aux sikhs et aux juifs, mais c'est tout à fait normal. Dans le sens où les musulmans britanniques peuvent être nigérians, peuvent être bangladais, peuvent être indiens, peuvent être kosovars. Donc effectivement, majoritairement, ils sont issus de l'ancien empire colonial britannique. Mais on parle de groupes qui sont beaucoup moins homogènes. La communauté musulmane, le terme est apparu la première fois au moment de l'affaire Rushdie.
où effectivement certains musulmans conservateurs dans le Nord ont commencé à parler au nom de la communauté musulmane. Mais ces gens-là, qui ont par la suite participé, concouru à l'émergence d'instances représentatives musulmanes, étaient eux-mêmes issus de communautés assez strictement définies. Donc il y a tout un tas de musulmans britanniques qui ne se reconnaissent pas dans ce que ces conservateurs religieux, également très conservateurs du point de vue social, peuvent qualifier de communauté musulmane. Et c'est effectivement au moment de l'affaire Rushdie qu'on est passé d'un référent qui était un référent essentiellement national ou racial. On parlait d'Indiens, de Pakistanais, on parlait beaucoup de Noirs de la Caraïbe qui ont retenu l'attention des politiques et des médias pendant plus de 40 ans. Et on a basculé vers le référent religieux au moment de l'affaire Rushdie. Et effectivement, lorsque je dis le référent religieux, ce sont essentiellement les musulmans qui en ont été l'objet et qui en ont fait les frais.
Alors, l'existence et la coexistence peut-être de communautés ne pose pas forcément directement un problème de communautarisme. Les communautés, on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage de Marion Lourd, sont aussi des points d'appui à la citoyenneté, Nada Fiouni. Les communautés sont constituées, elles sont consultées par les pouvoirs publics.
Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais rajouter en fait à ce qu'a dit Vincent par rapport aux deux modèles, si on accepte l'utilisation de mots modèles français et britannique. C'est que dans la gestion britannique de la pluralité, les communautés ou les représentants communautaires sont acceptés comme des partenaires dans la mise en place de politiques publiques. En tout cas, ils sont consultés, ils sont écoutés et souvent ils font partie des groupes de réflexion et de mise en place de politiques publiques. D'ailleurs, on l'a très bien vu aussi dans le reportage. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important qui distingue l'approche française de l'approche britannique. C'est la reconnaissance comme interlocuteur viable de représentants communautaires. Et je pense que ça se sent incroyablement, au niveau du reportage, comme les représentants, en tout cas les deux personnes qu'on a entendues, se sentent investis d'une mission citoyenne, justement. Mmh. De participer ainsi à la vie de la cité, à la mise en place de quelque chose, d'une politique commune qui s'appliquerait à tout le monde, au-delà de chaque communauté.
Et s'impliquer, ça veut dire aussi dénoncer les crimes, ça veut dire aussi être là pour recenser ce qui est en train de se passer.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le dernier interlocuteur insistait bien que dénoncer la haine, dénoncer le crime, peu importe qui en est la cible. Mmh. Et c'est cette idée de vouloir faire sens ensemble et de créer une société. Et c'est vrai qu'on voit souvent ça dans le multiculturalisme et dans les représentants communautaires. Ils insistent tous. L'année dernière, je faisais un travail de terrain, et cette année, ils insistent tous sur cette volonté, en tout cas au niveau discursif, hein. Après, je ne sais pas ce qu'ils font concrètement, mais sur la volonté de vivre ensemble et de construire des ponts entre les groupes interreligieux, plus interreligieux d'ailleurs que intercommunautaires.
Alors effectivement, moi c'est ce que j'ai pu remarquer dans le reportage, c'est que ces personnes-là étaient très impliquées, qu'elles organisaient des réunions où étaient conviés les dirigeants d'autres religions, les conseillers municipaux locaux, etc. En revanche, par définition, moi je n'ai pu rencontrer que des personnes qui étaient ouverte et qui avait envie de s'exprimer. Mais parfois, j'ai l'impression, et dans les interlocuteurs que j'ai sollicités, certains n'ont donné aucune suite malgré diverses sollicitations, j'ai l'impression que dans certains cas, il y a des communautés musulmanes aussi qui sont extrêmement refermées et qui peuvent vivre dans des quartiers sans parler même la langue anglaise et être un peu refermées sur elles-mêmes.
Qui veut répondre, Nada Fiouni?
Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse à ça, puisque j'en ai pas connaissance. Ça ne veut pas dire peut-être que j'ai eu la même difficulté que vous, c'est que j'ai pas eu accès. Mais en tout cas, au niveau de la communauté musulmane à Londres, je trouve qu'ils sont très présents.
Alors,
ils sont très très présents sur la scène médiatique. Ils sont, ils veulent particulièrement communiquer avec les universitaires et peut-être probablement avec les journalistes sur cette volonté de construire des ponts. Donc, Je ne pourrais pas rajouter autre chose.
Non, je pensais par exemple à l'exemple que je donnais tout à l'heure à Birmingham, où il y a un quartier qui est très particulier, qui est entièrement musulman et où la plupart des gens qu'on croise dans la rue ne parlent pas forcément anglais. En fait.
Vincent Latour.
Oui, c'est ce qui avait été souligné il y a une quinzaine d'années par le rapport dont je parlais tout à l'heure, le rapport Owsley, et qui avait dénoncé en fait une tendance à l'autoségrégation. Alors le terme avait été très controversé, hein, parce que c'était la première fois que sous un gouvernement de gauche un rapport était publié et critiquait certaines caractéristiques du multiculturalisme britannique, et particulièrement la tendance de certaines communautés à s'autoségréguer. Mais effectivement, ça a été signalé d'ailleurs par une de vos interlocutrices qui parlait de clusters, d'espèces de noyaux fermés dans le Nord et les Midlands. Maintenant, la politique du gouvernement britannique depuis 2001, par rapport au fait de ne pas parler anglais, par exemple, a été quand même modifiée de manière assez profonde, puisque dans les critères de naturalisation pour accéder à la nationalité britannique, maintenant, il est très clair qu'il faut maîtriser l'anglais.
Et ça fait partie des mesures qui sont prises pour tenter de faire évoluer ce qu'on peut appeler, si on veut l'appeler comme ça, le modèle britannique. Nada Fioni, peut-être pour terminer, parce qu'on va arriver au terme de cette émission déjà.
Oui, tout à fait. C'est à partir de 2001-2002, il y a eu cette volonté en fait de garder cette construction, cette gestion de groupe, mais tout en essayant d'y rajouter un peu d'intégration, je dirais, à la française, en y insufflant des cours sur la citoyenneté et effectivement, comme vient de le dire Vincent, des cours de langue anglaise qui sont une condition d'accéder à la citoyenneté britannique, à la nationalité britannique.
Merci à vous, Nada Fioni, docteur en civilisation britannique et maître de conférence à l'Université du Havre. Merci aussi à Vincent Latour, professeur des universités en civilisation britannique à Toulouse, Jean Jaurès. Vos interventions d'un bout à l'autre de la France ont été rendues possibles par nos amis de France Bleu Toulouse. Vincent Jacob était à la technique à Toulouse et puis de France Bleu Haute-Normandie à Rouen. Merci à eux. Ici à Paris, c'était Jean-Guilain Meige aux moyens techniques et Yacine Bouzard à la réalisation. Merci enfin à Marion Lourd à Londres. Votre reportage, Marion, agression islamophobe au Royaume-Uni, le multiculturalisme en question, est à retrouver, à réécouter ou à télécharger sur internet franceculture.fr.